Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors nous allons passer bien ce quart d'heure de nouveau en compagnie de Joseph Joubert. J'ai sous les yeux un livre intitulé justement Joseph Joubert, Pensée, Jugement et Notation. Alors c'est une anthologie critique établie par Rémy Tessonneau et publiée par José Corti en 1989. Voilà, alors je vais quand même rappeler qui était Joseph Joubert. Alors Joseph Joubert est né à Montignac le Comte, qui était en Guyane à l'époque, et il est né en 1754. Alors il va faire des études au Collège de l'Escrie à Toulouse, chez les doctrinaires. Mais il n'est pas tenté par, la religion, et il va monter, comme tout le monde, à Paris. Voilà, et là, il va rencontrer Fontane. Alors, il va fréquenter les philosophes, principalement Diderot, Récif de la Bretonne, Mercier, La Reynière, Marlin, et Joubert, quitte complètement la religion. Alors, il prend pour maîtresse Agnès Le Bègue, qui est l'épouse de Récif de la Bretonne. Il encourage Fontane dans la voie littéraire, écrit pour le chevalier Jean-Jacques, et sur les armes, sur la vie sociale, fait son premier voyage à Villeneuve-le-Roi et commence à rédiger ses fameux carnets. Et puis il prépare le mariage de Fontane, écrit sur l'introduction à l'histoire impartiale de France, ouvrage non retrouvé. Dommage, et il est élu juge de paix à Montignac. Alors il va rentrer bien sûr en Périgord, il s'installe à Montignac, il va remplir ses fonctions et il correspond avec Victoire Moreau de Villeneuve-le-Roi qu'il souhaite épouser. Et c'était, paraît-il, un amour de jeunesse. Alors Joubert revient à Paris, rejette l'action révolutionnaire devant ses excès et épouse Victoire Moreau et s'installe à Villeneuve. Alors en avril 1794 évidemment, naissance de son fils Victor. Alors en décembre, Joubert connaît Pauline de Beaumont. Elle va être chassée du château de Passy et il va quand même rédiger une note au Berquin en juillet. Et puis la terreur évidemment va quand même prendre fin. Alors à Villeneuve, il entretient des relations amicales avec Pauline de Beaumont. Alors, relation amicale, une amitié quand même amoureuse. Enfin, il était marié, donc on n'en parle pas. Ensuite, il va revenir à Montignac et qu'il quitte en 1800 pour Villeneuve-le-Roi. Alors, fin décembre, début 1801, Pauline de Beaumont s'installe rue Neuve de Luxembourg et fin 1801, Joubert revient à Paris. Donc, comme je disais, en février-mars. Alors, et puis, il va y avoir la petite société de Madame de Beaumont. Joubert rencontre Chateaubriand. Et puis, Chateaubriand va faire paraître, Attala. Et puis, en mai, Chateaubriand est nommé secrétaire de la Légation à Rome. Juillet, première lettre de Joubert à Molay. Et Joubert revient à Villeneuve. Pauline part. Pour le Mont d'Or, elle était malade et elle va rejoindre Chateaubriand à Rome où elle décédera. Alors Joubert projette d'écrire un éloge de Pauline de Beaumont, mais il va y renoncer en septembre 1808, organisation de l'université impériale. Joubert devient inspecteur général et en novembre 1809, il est nommé conseiller ordinaire. Tout n'est pas toujours rose dans la vie et Joubert est malade. Et les activités universitaires Joubert et orientation dans le même sens que ses relations épistolaires et amitié avec Madame de Chateaubriand. Alors, comme je disais, il est quand même souffrant. En 1814, Joubert envisage de fuir l'invasion avec sa famille en Normandie, mais reste à Paris. Alors, en octobre, il est nommé par le roi chevalier de la Légion d'honneur. En 1815, Joubert mis à la retraite de ses fonctions universitaires. Mais le 1er mars, Napoléon débarque à Golfe-Juan et Joubert est rétabli dans ses fonctions, évidemment pour 100 jours. Après les 100 jours, il est de nouveau exclu de l'université. Alors, il va habiter à Paris, à Villeneuve-sur-Yonne, et Fontane meurt en mars 1821 et Joubert le 4 mai 1824. Alors, bien sûr, il reste de lui, comme on l'a dit, ses pensées, jugements et notations, et qui aura été édité. Et il y a, comment je pourrais dire, plusieurs chapitres dans ce livre que j'ai sous les yeux, âme et corps, mais il y a une fonction qui va nous inspirer, qui nous intéresse, c'est langue, expression, genre littéraire, style et écrivain. Alors, il y a une petite introduction. Joubert est hanté par le thème de l'expression principale en littérature, problème de la création et du métier de l'écrivain chez les anciens et chez les modernes. Analyse, la comparaison, la définition, la construction de la phrase, également les formes de style, appelle sa réflexion, l'inspiration aussi. Résister à l'influence des passions, s'ouvrir à la verve, à l'enthousiasme, cultiver la clarté, le goût, la finesse, voilà les lignes de force à suivre. Alors, on va quand même voir, on parle bien sûr de ses pensées, jugements, on va quand même en voir quelques-unes. Alors, en voici une, l'accent et le caractère national, un rapport naturel. La manière de s'exprimer diffère selon le caractère, il en est de même de la manière de prononcer. C'est vrai que chacun a quand même son ton, sa voix, et puis ses idées aussi. Alors, il faudrait pour écrire parfaitement, écrire et penser comme écrivait le penser l'homme parfait dans sa constitution, au moment où toutes ses facultés seraient en lui parfaitement ordonnées. Cette situation serait possible dans cet état de l'âme où toutes ses passions seraient développées dans toute leur force et leur étendue et combinées dans un équilibre parfait. Ah, l'écrit parfait. Bon, alors on va continuer quand même. Voilà, voici la cause de tous les défauts des auteurs français. Ils écrivent, ils pensent, ils parlent, ils jugent, ils imaginent trop vite. Et cela vient du vice radical de nos mœurs. Nous sommes trop pressés de vivre et de jouir. Nous jouissons et nous vivons trop vite. Je crois que si penser vivre trop vite à la fin du 18e siècle, qu'est-ce qu'on devrait penser maintenant? Alors voilà ce qu'il nous dit justement sur la façon de penser. Je pense que l'homme qui n'aurait point de langue pour s'exprimer aurait moins d'idées et serait attentif à un plus petit nombre de sensations. Sa mémoire et son imagination seraient moins riches. Alors Homère écrivait pour être chanté, Sophocle pour être déclamé, Hérodote pour être récité, Xénophon pour être lu. De ces différentes destinations de leur ouvrage devrait naître une multitude de différences entre leurs styles. Alors on va poursuivre un peu. Des lettres et les arts établissent d'un bout du monde à l'autre une sorte de parenté entre tous ceux qui les cultivent d'une manière digne d'elles. Alors il y a des choses qui sont beaucoup plus longues, mais ce qui est intéressant, ce sont justement ces petites pensées très courtes. L'écriture tient de plus près à la pensée que la parole. C'est vrai qu'on peut mettre par écrit beaucoup de choses qu'on ne dirait peut-être pas à quelqu'un. Alors, les uns disent bâton merdeux, les autres fagot d'épines, suivant l'expression des gens. Dans le discours, la passion qui est véhémente de noisette, que la dame nature de l'intelligence qui est tranquille. Et il est même louable de parler avec son humeur, mais il ne faut penser et juger qu'avec sa raison. Ouais. Il faut quand même pas donner trop d'importance à son humeur, qui n'est peut-être pas toujours très juste. Alors, on va continuer. Le tour antithétique, énigmatique recherché, etc., est indispensable au raccourci dont on est obligé d'user quand on veut faire tenir sa pensée, son humeur ou son sentiment dans un espace trop borné de parole et de temps. Ce tour est naturel et sa nécessité en fait l'excuse et le mérite. La fonction des écrivains devrait presque se borner à mettre la mode des vérités de tout temps, dont l'amour et la pratique sont essentiellement nécessaires au bonheur du genre humain. Alors là, c'est vraiment trop long. Ne pas définir ce qui est connu, un bavardage, obscurcir ce qui est clair, un bafouillage, mettre en question ce qui est en fait mauvaise foi. Ignorance, rendre tout abstrait de ce qui est palpable, charlatanisme, et offrir des difficultés qui ne s'offrent pas elles-mêmes et n'ont une valeur apparente. Et tout cela, c'est de la chicane. Bien. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont un peu compliqués. Alors, souviens-toi de cuver ton encre. Ça, c'est pas mal. Le style et la pensée même. Le roman devrait être pour la jeunesse comme des relations propre à lui faire connaître le pays de la vie où elle va. monnayer la sagesse, à frapper à maxime, en proverbe, en sentence facile, à retenir et à transmettre. Ne jette pas ton esprit sur les eaux courantes. Le pédantisme consiste à parler aux autres de ce qu'on sait et de ce qu'ils ne savent pas, pour leur imposer par là et en faire parade. La comparaison est une espèce de conjecture. Et puis, bon, on va continuer un tout petit peu dans ce chapitre sur la langue. Si vous voulez que vos lecteurs raffolent de l'héroïne d'un roman, gardez-vous de lui assigner des traits fixes afin que chacun puisse imaginer à sa fantaisie et tel qu'il aimera le mieux. Ça, c'est bien vu, hein. Leur paraissent des savants, car les esprits laborieux aussi leur paraissent, et causent des obscurités dont l'idiome philosophique fatigue trop souvent l'esprit. Adopte la première expression venue, une autre expression adoptée par celui-ci, insensiblement s'introduit un jargon. Et des erreurs aussi, il faut faire attention. Quand on copie quelque chose, savoir si ce qu'on copie n'est pas entaché d'erreurs. Alors Locke dit que les maximes n'éclairent pas, mais elles guident, elles dirigent, elles sauvent aveuglément. C'est le fil dans le labyrinthe, la boussole, pendant la nuit. Et puis, tout critique de profession, homme médiocre par nature. C'est vrai que la critique est très facile. Dans nos écrits, la pensée semble procéder par le mouvement d'un homme qui marche et qui va droit. Au contraire, dans les écrits des anciens, elle semble procéder par ce mouvement d'un oiseau qui plane et avance en tournoyant. Alors, bon, on va quitter un peu ce chapitre. Et il y a un autre qui est intéressant, qui s'intitule « Liberté ». Un petit préambule, les idées de Joubert sur ce thème sont en partie liées aux opinions et aux événements politiques et sociaux de son temps. La liberté essentielle est la liberté morale qui du reste vient de son imperfection. La conception moderne de la liberté est néfaste, elle conduit à exercer une tyrannie. Alors voilà donc sur le chapitre de la liberté politique. Pour un peuple consiste à se gouverner comme il veut, sa liberté religieuse à croire ce qu'il veut, sa liberté de commerce à vendre ou acheter comme il lui plaît. Ça c'est bien vu. Tout homme est libre et ne peut perdre sa liberté, il ne peut la perdre par sa volonté, car ce serait une folie, ni par la volonté d'autrui, car ce serait une oppression. Quand ôte à un homme la liberté pour toute sa vie est digne de mort. La liberté consiste à pouvoir faire et dire tout ce qui n'est pas défendu par la loi. Il y a quand même quelques barrières. L'imprimerie doit donc être libre comme l'apothicairerie, ni plus ni moins. La vénalité des charges avait au moins cet avantage que celui qui achetait une judicature n'ayant aucune obligation du pouvoir qui la lui vendait, il en restait indépendant dans ses opinions et dans sa conscience. Alors, rester indépendant dans ses opinions et sa conscience, ça, c'est une très bonne chose. Les peuples libres sont ceux qui ont la faculté et la facilité de se défaire de leurs lois quand elles leur déplaisent. Et oui, cette liberté morale qui nous vient de nos imperfections. Puis il va continuer ainsi, prouver la liberté par le crime, qui est une résistance, un dépenchant de notre être vers le bien, aussi bien que par des actes de vertu, qui sont aussi une déviation de notre penchant vers le bien-être, est admirable. Alors l'esprit des hommes est perpétuellement travaillé d'une maladie qu'on appelle amour de l'indépendance, et l'esprit des peuples d'une maladie assez semblable. C'est la manie de la liberté. Eh oui, on est tous pour la liberté, c'est vrai. Des âmes libres, bien plutôt que des hommes libres, la liberté morale est la seule importante, la seule nécessaire, et notre n'est bonne et utile qu'autant qu'elle favorise celle-là. Être libre n'est pas faire ce que l'on veut, mais ce que l'on a jugé meilleur et le plus convenable. Ça, c'est pas toujours vrai. Alors on va peut-être en donner une dernière. Il est permis, ou plutôt il est inévitable à tout le monde d'avoir son avis, mais il n'est pas permis à tout le monde de se fier à l'avis que l'on a. Ben oui, chacun ses idées. Alors, la liberté de la presse, comme on livre ses armes à un furieux qui ne tuera que si on les lui donne, et qui vous tuera si on ne les lui donne pas. Bien, alors on va arrêter là cette citation, et je voudrais profiter des quelques secondes qui restent pour parler de l'actualité de Joseph Joubert. Alors, il y a un livre qui est paru qui s'intitule « Sous le fleuve de lumière, Joseph Joubert ». et c'est de Gilles Gontier, et c'est publié à l'Armata en 2020. Puis il y a des colloques Joujel Joubert, il y en a eu un Sens en 2010, à Lyon en 2015, et il y a une parution à Londres en 1996, en anglais, je suppose. Voilà, eh bien, écoutez, je crois que mon temps est terminé, je vous souhaite une bonne journée, ensoleillée, une bonne semaine et à très bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.